Voilà, je vais reprendre un peu la conférence de la fois précédente, commencer par un bref résumé. Je vous avais annoncé que nous verrions aujourd'hui, ce soir, l'offertoire et le canon, mais l'expérience prouve que cela prend plus de 2 heures, donc je m'arrêterai simplement à la consécration. Nous verrons le reste après. J'ai pitié de vous et aussi de moi. La dernière fois, nous avions vu la messe. Explication de la messe jusqu'au credo ou jusqu'à la prière universelle selon le nouveau rite. Et je ferai un bref rappel de ce que nous avions vu la fois précédente. Et tout d'abord, la méthode que nous suivons. Le centre de la messe, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Et comme tout sacrement, l'Eucharistie est un signe sensible qui réalise la grâce qu'il signifie. Le sacrement, par la matière et la forme, a une signification. La chose elle-même, la formule employée, a un sens. Et ce sens réalise un fait surnaturel, la grâce dans l'âme. Le sacrement de l'Eucharistie a sa matière, c'est le pain et le vin, et sa forme, les paroles de la consécration. Et c'est là réellement le centre de la messe. Mais ce sacrement est très riche dans sa signification. C'est à la fois une nourriture pour l'âme, c'est aussi un sacrifice, et les simples mots « ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang » ne suffisent pas à expliquer pleinement ce sacrement. C'est la raison pour laquelle l'Église a entouré les paroles sacramentelles d'un ensemble de rites. La liturgie, qui a pour fonction d'expliquer toute la richesse de l'Eucharistie. Et voilà pourquoi, dans cette étude, nous attacherons essentiellement à la signification des prières et des rites. Car c'est là-dessus qu'on peut juger une liturgie. Une liturgie sera bonne dans la mesure où elle signifie correctement les réalités surnaturelles. Elle sera mauvaise si elle les traduit de manière imprécise, ou même si elle les trahit. Alors dans cette étude, nous suivons, comme la dernière fois, pour l'ancien rite, principalement deux ouvrages, l'explication des prières et cérémonies de la messe de Pierre Lebrun, publié en 1716. Je l'ai choisi volontairement, car on ne peut pas l'accuser de parti pris à l'égard de la nouvelle messe. Et l'autre, c'est un ouvrage de Monsieur l'abbé Joly de la Fraternité Saint-Pédis, La messe expliquée aux fidèles, publiée aux éditions Clovis en 1998. En outre, pour la nouvelle messe, je m'appuierai essentiellement sur la présentation générale du missel romain, publiée aux éditions liturgiques par le Centre national de pastoral liturgique en France. Il s'agit du document qui a été publié par le pape Paul VI en même temps que le missel en 69 et qui fait office de rubrique, qui donne le sens des cérémonies et, dans une certaine mesure, la manière de les faire. Il faut préciser qu'il y a eu deux versions de ce texte, un de 69 qui a été corrigé en 70 dans un sens un peu plus catholique ou un peu moins hétérodoxe. Rappelons quelques éléments saillants qui ressortent de l'étude que nous avons faite la fois dernière, de la messe. Pour le rite de 62, celui que nous célébrons, eh bien, les rites de la messe sont une préparation à ce qui va suivre. Tous les rites sont tournés et nous dirigent vers la consécration. Il y a donc une unité dans l'action liturgique. On commence par la confession des péchés, la préparation à la messe, ce sont les prières au bas de l'autel. Cela se poursuit par l'imploration de la miséricorde divine, le Kyrie, la louange de Dieu, ce sont les rites d'entrée qui marquent l'entrée et qui suivent immédiatement le chant d'entrée, le chant d'introïte. D'ailleurs, si on parle de chant d'entrée, eh c'est à ce moment-là qu'à l'origine le prêtre entrait dans l'église, raison pour laquelle à la messe chantée, d'ailleurs, les fidèles se lèvent. Le chant d'entrée est suivi de la collecte. Après cette entrée du prêtre, suit l'enseignement, On commence par l'enseignement donné sur Jésus-Christ par les apôtres et par les prophètes. Il s'agit d'épîtres tirées soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament, avec des apôtres ou épîtres. Et après, on en arrive à l'enseignement de Jésus-Christ lui-même. Ce sont les évangiles. Et la conclusion logique de cela, pour les grandes fêtes, c'est la confession de la foi en tout ce que l'on vient d'entendre. Pour le nouveau rite, il débute directement par le chant d'entrée. Les prières d'autel, les prières au bas de l'autel ont été supprimées. En pratique, eh bien, cela affaiblit fortement la notion de péché dans la nouvelle messe, puisque dans cette partie de la messe, la notion de péché n'apparaît plus que dans la préparation pénitentielle, qui sont les formules peut-être extrêmement brèves. Après ces rites d'entrée, il y a d'abord ces rites d'entrée dont le but est de constituer l'assemblée. Les fidèles arrivent un peu de partout, chacun c'est un ensemble d'individus, et ces rites d'entrée ont pour but de créer une communion entre tous les fidèles, de former l'assemblée, cette assemblée qui ensuite célébrera la messe. Car l'acteur principal de la nouvelle messe, c'est ce qui est dit dans les textes officiels, celui qui la messe, eh bien, ce n'est pas le prêtre, mais c'est l'assemblée qui représente, eh bien, l'Église universelle dans sa réalisation locale. Après avoir constitué l'assemblée, eh bien, suit la liturgie de la parole, première liturgie, constituée des lectures, une lecture de l'Ancien Testament, une lecture des épîtres ou des actes des apôtres et la lecture de l'Évangile. Cette liturgie de la parole est une liturgie à part entière, célébrée par l'Assemblée. On le voit, les lectures sont faites alternativement par un lecteur, par un diacre ou un autre prêtre. Donc, toute l'Assemblée participe à cela. Et il ne s'agit pas là d'une préparation à ce qui va suivre, à la consécration, mais bien d'un rite à part entière qui a sa finalité propre et qui a aussi sa table propre, la table de la parole, qui s'oppose à la table eucharistique qui servira pour la liturgie eucharistique qui suivra. La liturgie de la parole se conclut par le credo et la prière universelle, qui est l'expression de la prière de l'Assemblée. On voit encore la place essentielle donnée à l'Assemblée. La comparaison de ces deux rites fait apparaître que un certain nombre de rites sont similaires, mais que la perspective est très différente. La signification n'est plus la même. Et cela est gênant, car il semble qu'on a affaire là à d'autres réalités que celles signifiées dans l'ancien rite. On n'est plus en face des mêmes choses. Alors nous allons voir maintenant si dans l'offertoire et dans la première partie du canon, appelé maintenant prière eucharistique, eh bien, cela se confirme, ou si c'est bien quelques erreurs en début de messe. Nous sommes donc en page 3 sur les feuilles où vous avez donc en parallèle les textes à la fois donc de l'ancien rite, le rite de 62, et celui de 69, qu'on appelle habituellement messe de Paul VI, ou nouvelle messe. Les traductions, celles de gauche, sont celles tirées du Missel Fédère, ce ne sont pas les meilleures. Et à droite, la traduction la traduction officielle approuvée par les conférences épiscopales de langue française. Commençons donc par l'offertoire. L'offertoire qui dans le nouveau rite s'appelle maintenant présentation des dons. C'est avec l'offertoire que commence la messe dite des fidèles. Aux origines de l'Église, seuls les baptisés et ceux qui n'étaient pas pécheurs, vous savez que les pécheurs publics étaient exclus de l'Église, avaient de longues pénitences à faire, les pécheurs publics étaient exclus de la partie essentielle de la messe des fidèles, donc seuls les baptisés qui étaient en paix avec l'Église pouvaient assister à cette partie de la messe. Car c'était là la chose essentielle. Une autre raison, c'était aussi la loi du secret, la loi de l'arcane, surtout au temps des persécutions, pour que les réalités les plus saintes de l'Église ne soient pas livrées aux païens. Avec l'offertoire, eh bien, on entre vraiment dans la partie essentielle de la messe. Et d'ailleurs, l'Église nous dit que pour remplir le devoir dominical, l'assistance à la messe le dimanche, il faut être présent à la messe au moins depuis le début de l'offertoire. Ça ne veut pas dire qu'arriver en retard à la messe, arriver au Kyrie et au Gloria est une bonne chose. Si c'est volontaire, il y a au moins une faute vénielle. Mais celui qui arriverait à la messe après l'offertoire n'aurait pas assisté à la messe. Il devrait donc y assister après. On voit là donc l'importance de cela. L'offertoire commence par un chant, le chant d'offertoire précédé du Dominus Vobiscum. Comme nous l'avons vu la dernière fois, le Dominus Vobiscum marque le passage d'une partie de la messe à une autre. Et ici, cela est très net, on y passe, on entre dans la liturgie, dans la partie centrale, dans la messe des fidèles. L'oremus, traditionnellement, il est suivi d'une oraison. Ce n'est pas le cas ici. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour cela. Soit cet oremus est destiné à la secrète qui conclura l'offertoire, et les prières qui s'intercalent entre sont des prières plus tardives. À l'origine, l'offrande des oblats se faisait en silence. Ou d'autres pensent qu'il y aurait là un reste des grandes oraisons que l'on fait pour l'Église, pour les pécheurs, pour les juifs, pour les schismatiques, pour les hérétiques, comme cela se fait encore le Vendredi Saint. Le chant d'offertoire, il porte ce nom car jusqu'au Xe siècle, il se chantait pendant que la foule apportait les dons à l'autel, faisait son offrande. L'origine de ce chant remonte, semble-t-il, au temps de Saint-Augustin à l'église de Carthage. Et de là, il s'est répandu à toute l'église latine. Il est composé d'un verset, uniquement aujourd'hui, mais auparavant, ce verset était alterné avec un psaume. C'était un psaume antiphoné, comme on le fait pour l'introïte. On a une trace de cela encore dans la messe des morts, où un verset est répété plusieurs fois dans le chant d'offertoire. Pendant ce chant, le peuple apportait les offrandes, et notamment le pain et le vin qui devaient servir à la messe. Seule une partie du pain servait pour la consécration. Le reste était mis de côté et devait servir soit au clergé, soit aux pauvres. C'est de là aussi que vient l'usage du pain béni qui s'est conservé en divers endroits. Le pain qui ne servait pas pour la consécration était mis de côté, était béni et distribué à la sortie de la messe. C'est en grec qu'on appelait ces pains eulogies, qu'on envoyait parfois à d'autres églises en signe de l'unité de l'église. Le pain, qui est un ensemble de grains de blé moulus et faits ensemble, plusieurs êtres qui s'unissent pour ne faire qu'une seule réalité, le pain. C'est l'image de tous les hommes, de tous les fidèles, qui, en Jésus-Christ, ne font plus qu'un, deviennent le corps mystique du Christ. Avec le temps, on a substitué à l'offrande du pain et du vin d'autres offrandes, même des dons en argent, comme cela se fait aujourd'hui avec la quête. Et pour les fidèles, cette offrande était le moyen de s'unir, d'offrir quelque chose en vue du sacrifice. On voit dans la messe pontificale un reste de cela dans le premier lavement des mains que fait l'évêque au trône épiscopal au moment du chant d'offertoire. L'évêque, après avoir reçu les dons à l'origine, se lavait les mains, et il y aura un second lavement des mains de l'évêque un peu plus long, un peu plus loin dans l'offertoire, comme cela se fait pour toutes les messes. Dans les messes d'ordination, c'est aussi à ce moment-là que les ordinants viennent s'offrir. Ils apportent leur siège à l'évêque, symbole de leur consécration et de leur donation à Dieu. Notons que jusqu'au Xe, XIe siècle, on utilisait dans l'église, pour la messe, du pain fermenté, du pain de tous les jours. Avec le après, le pain azyme s'est substitué. C'est celui que notre Seigneur a utilisé lors de la scène. Le fait de l'usage du pain asim explique sans doute eh bien, que l'offrande du pain et du vin n'a plus eu cours dans l'Église par la suite. Après l'offrande des fidèles, eh bien, il y a l'oblation du pain. Jusque-là, nous avions parlé d'offrande, ce sont les fidèles qui apportent, qui offrent au prêtre le pain et le vin. Le terme d'oblation, lui, indique une offrande faite à Dieu, et Dieu qui accepte cette offrande. Le prêtre, à ce moment-là, prend la patène, ce petit plat doré, sur lequel repose la grande hostie. S'il y a un ciboire, il ouvre le ciboire. Il tient la patène avec quatre doigts de chaque main, en récitant la prière du Suscipe Sancte Pater. Dans ces quatre doigts, Monseigneur de Ségur voit un signe des quatre cornes qui ornaient le coin de l'autel des Holocaustes au temple de Jérusalem, et donc pour faire l'analogie avec le sacrifice de l'ancienne alliance. Et par cette oblation, la victime est séparée et préparée à être offerte. Le prêtre ensuite fait un signe de croix avec la patène avant de déposer l'hostie sur le corporal. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs étapes, d'ailleurs, dans les sacrifices. Il y avait d'abord l'offrande de la victime, de l'animal, à la porte du tabernacle, l'imposition des mains sur la tête de la victime, qui est le symbole que l'on donne cette victime à Dieu, qu'on la substitue à nous, et enfin venait l'immolation proprement dite. Eh bien, l'oblation correspond à cette première offrande à Dieu. Pendant cette offrande, le prêtre dit la prière « Suscipe Sancte Pater ». Elle remonte au 8e siècle et elle est apparue en Espagne. De là, elle s'est étendue à Rome et à toute l'Église. À l'origine, l'oblation de l'hostie et du vin se faisait en silence. Donc c'est la prière « Offrande des hosties que vous avez recevez, Père Saint », etc. Cette offrande s'adresse à Dieu le Père. Dieu éternel, tout-puissant. Dieu le Père comme créateur. En effet, on attribue au Père la création, même si c'est les trois personnes divines qui ont réalisé la création. Cette offrande est donc l'hommage de la créature au créateur. Celui qui offre, c'est le prêtre. Et il offre une offrande sans tâche. Il ne s'agit pas seulement d'offrir du pain, mais déjà d'offrir notre Seigneur Jésus-Christ qui va être immolé tout à l'heure au cours de la consécration. C'est déjà par avance le Christ qui est offert comme victime ici. Et ce sacrifice est offert pour les péchés. D'abord pour celui du prêtre, qui se reconnaît un indigne serviteur, qui l'offre pour ses péchés, faute volontaire, pour ses offenses, ses fautes de faiblesse et ses négligences à faire le bien. Comme le grand prêtre dans l'Ancien Testament, qui offrait d'abord un sacrifice pour sa purification, avant d'offrir le sacrifice pour le péché du peuple. Et le prêtre l'offre ensuite pour les fidèles vivants et morts, avec une mention particulière pour les fidèles qui l'entourent, qui assistent à la messe. Cette prière met en évidence le caractère propitiatoire de la messe, c'est-à-dire que la messe nous rend Dieu propice par la remise de nos péchés. Dieu nous pardonne nos péchés et après cela, il est prêt à agréer nos demandes, il est prêt à nous entendre. Et cela, cette offrande se fait bien sûr en vue de la vie éternelle, du salut. L'oblation du calice. On commence par préparer le calice. Le prêtre verse le vin dans le calice en silence. Il le fait à l'angle droit de l'autel. Il bénit ensuite la burette d'eau en prononçant la parole, la prière, Deus qui mene substantiae, et il verse une goutte d'eau dans le calice. La prière que vous avez en bas de la page 3, Dieu qui d'une manière admirable, cette prière était à l'origine une oraison du sacramentaire léonien qui était en usage pour la fête de Noël. Et quand on l'a inséré à l'offertoire de la messe, on a ajouté les termes selon le mystère de cette eau et de ce vin, de façon à ce qu'elle soit plus adaptée à ce qui se réalise à ce moment-là. Alors pourquoi le mélange de l'eau et du vin? Quatre raisons peuvent être données de cela. La première, c'est que notre Seigneur a sans doute fait cela. En effet, en Palestine, le vin est beaucoup plus capiteux et il y avait l'usage de couper le vin. Il y a aussi tout un symbolisme très important. D'abord, l'union des fidèles avec Jésus-Christ par la grâce dans la Sainte Eucharistie. L'eau et le vin forment un mélange très intime qu'on ne peut plus séparer. C'est l'image des fidèles unis à son Église et par l'Église aux fidèles de manière très intime. On forme qu'un seul corps avec Jésus-Christ, son corps mystique. C'est encore un rappel du sang et de l'eau qui ont coulé du côté de notre Seigneur percé par la lance. Enfin, il y a là le symbole de l'incarnation. Dans la personne divine du Verbe, du Fils de Dieu, se sont unis la nature humaine et la nature divine, l'eau et le vin. Et dans cette prière, on retrouve un peu tous ces aspects. Elle mentionne d'abord, elle parle d'abord de la grâce divine. Dieu, d'une manière admirable, avait créé la nature humaine dans sa noblesse. Il s'agit ici de la création de nos premiers parents, Adam et Ève, dans l'état de grâce. Et qu'il l'avait restauré d'une manière plus admirable encore. Cette restauration de notre nature humaine s'est faite par Jésus-Christ dans le sacrifice de la croix, par laquelle il nous divinise, il nous fait prendre part à sa divinité, lui qui a daigné partager notre humanité. On voit donc cet échange admirable de Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ divinisés. À l'origine, et on peut se demander pourquoi le prêtre fait le signe de croix sur la burette. Eh bien, ce signe de croix est sans doute un reliquat de l'usage qu'il y avait de verser l'eau en croix dans le calice, comme cela se fait encore pour le baptême. On verse l'eau sur le front de l'enfant en forme de croix. Mais quand au 8e siècle, on a mis beaucoup moins de vin dans le calice, il y avait un danger qu'il y ait plus d'eau que de vin. C'est la raison pour laquelle on s'est contenté désormais d'une goutte d'eau. Après avoir préparé le calice, le prêtre va en faire l'oblation. Le prêtre essuie le bord du calice, le ramène au centre de l'autel, l'élève devant lui à mi-hauteur et prononce la prière Offerimus tibi, c'est en haut de la page 4. Nous vous offrons Seigneur. Et après cela, il trace un signe de croix avec le calice sur l'autel avant de le poser et de le recouvrir de la pâle, ce carton recouvert de tissu qui sert à protéger le calice. Cette prière trouve son origine vers le Xe siècle en Espagne. Et on la trouve dans la liturgie romaine au XIe siècle. Et elle précise bien le sens de l'offrande. Là encore, ce n'est pas du vin qui est offert, mais ce que ce vin va devenir, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ immolé. C'est ce qu'indique l'expression « calice du salut ». Ce calice, car le salut nous a été apporté par Jésus-Christ crucifié. Cela est offert en parfum d'agréable odeur, c'est-à-dire que Dieu agrée cette offrande. Cela fait référence au sacrifice de l'Ancien Testament où la victime immolée était brûlée sur l'autel et la fumée du sacrifice montait vers le ciel, montait vers Dieu. Mais le seul sacrifice qui soit vraiment agréable à Dieu, c'est celui de son divin Fils, Jésus-Christ. Et la prière mentionne l'effet de cette oblation. C'est notre salut et celui du monde entier. On distingue là, bien dans cette prière, à la fois le salut des fidèles et le salut de ceux qui ne sont pas fidèles, notre salut et celui du monde entier. En effet, en tant que baptisés, nous avons un certain droit strict au salut, en raison de la promesse divine, alors que les autres, eh bien, ne la reçoivent que par pure miséricorde de Dieu, et non pas ce droit né de la promesse. Notons encore que le prêtre, ici, ne dit pas « je », mais il dit « nous ». Pour l'offrande du pain, il disait « je ». Il y a deux raisons pour cela. Tout d'abord, c'est que le diacre, à la messe solennelle, s'unit au prêtre pour l'offrande du calice. Il soutient le pied du calice de la main droite. Et l'autre raison, c'est que ici, ce qui est offert, c'est le Christ total. C'est tout le corps mystique du Christ. Le Christ auquel a été unie la goutte d'eau qui représente tous les fidèles. Et donc, tous les fidèles s'offrent déjà avec le Christ dans cette offrande du calice. Et cela nous introduit tout naturellement à la prière suivante, in spiritu humilitatis, dans un esprit d'humilité, qui est la prière que les fidèles font d'eux-mêmes. C'est l'offrande des fidèles. Pour cette prière, le prêtre est incliné, les mains jointes, posées sur l'autel, de cette manière. Cette inclinaison signifie à la fois l'humilité et la contrition, dont on parle dans la prière, et le fait que les mains soient posées sur l'autel indique bien l'union que le prêtre veut avoir avec les oblats, avec le pain et le vin qui vont être offerts et qui sont posés là sur l'autel. Cette prière remonte au 9e, 10e siècle. On la trouve dans les missels mozarabes ainsi que dans un missel de l'église d'Utrecht. Elle est tirée du prophète Daniel. C'est ce qu'ont chanté les trois enfants dans la fournaise. Le roi Nabuchodonosor avait fait élever une statue gigantesque et il avait ordonné que tous, quand retentiraient les trompettes, se prosternent et adorent ce dieu, cette idole. Et les trois enfants hébreux ont refusé. Pour ce motif, ils ont été jetés dans une fournaise ardente qui était chauffée à blanc. Et Dieu, miraculeusement, a fait qu'ils n'en ont ressenti aucun mal, alors que ceux qu'ils avaient amenés à la fournaise ont été brûlés. Et dans cette fournaise, ils chantaient à Dieu. Ne pouvant plus offrir le sacrifice de l'Ancien Testament, qui se faisait dans le temple de Jérusalem, eh bien, ils offrent ce qu'ils peuvent. En effet, le temple était détruit et la majorité du peuple était partie en déportation. Ils s'offrent eux-mêmes à Dieu. Et ce qu'ils offrent, c'est leur humilité et le regret de leur faute. Donc c'est en fait cette prière qu'ils disaient ici. Cela fait aussi référence au psaume 50. Le sacrifice que Dieu désire, c'est un esprit brisé de douleur. Ô Dieu, ne dédaignez pas un cœur brisé et contrit. Cette prière est à la première personne du pluriel, c'est le « nous » qui est employé, car elle est l'offrande de toutes les fidèles. Ce que les fidèles apportent même, eh bien, c'est leur humilité et le regret de leur faute. Et c'est ainsi qu'ils peuvent s'unir au sacrifice de Jésus-Christ. Elles expriment aussi ce désir d'être changées, purifiées, pour être unies à Jésus-Christ et être offertes à Dieu. Après cela vient l'invocation du Saint-Esprit. Venez sanctificateur, Dieu éternel et tout-puissant. Le prêtre élève les yeux et les mains, puis joint les mains, et ensuite il fait un signe de croix sur les oblats. De cette manière, il implore eh bien, la venue d'Esprit Saint et sa bénédiction pour qu'elle se répandent sur ce qui va être offert à Dieu. Et le signe de croix indique la bénédiction. Cette prière remonte au IXe siècle, dans les missels mozarabes ainsi que dans l'ancien missel gallican. Et elle est adressée à l'Esprit Saint, même si on a les mots Dieu éternel et tout-puissant, car le Saint-Esprit est éternel et tout-puissant, comme le Père et le Fils. En effet, la grâce et la sanctification sont attribuées à l'Esprit Saint, même si elles sont l'œuvre de toute la Trinité. Mais surtout, le terme « veni », « venez », ne peut s'adresser qu'aux deux personnes divines qui ont été envoyées. Le Père, lui, n'a pas été envoyé. C'est le Père qui envoie le Fils dans le monde par l'incarnation, et c'est le Père et le Fils qui envoient l'Esprit Saint. Donc on peut dire « venez pour Jésus-Christ », ou pour le Saint-Esprit, mais pas pour le Père. Et on invoque ici l'Esprit Saint pour qu'il sanctifie et qu'il unisse, nous unisse, réalise cette union de nous-mêmes avec Jésus-Christ pour que nous soyons ensuite offerts dans le sacrifice proprement dit à la consécration. Et ce sacrifice est offert à toute la Trinité et donc au Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit ce sacrifice préparé pour votre Saint-Nom. Arrivé ici, les oblats sont, la préparation des oblats est pleinement réalisée. Ce qui a été fait, c'est cette première offrande de notre Seigneur Jésus-Christ à travers eh bien, le pain et le vin. De la même manière eh bien, qu'on offrait l'animal qui allait être immolé à la porte du temple. Il y a ensuite le rite de l'encensement qui a lieu donc aux messes solennelles et qu'on peut faire aux messes chantées. Jusqu'au IVe siècle, il n'y a pas eu d'encensement. C'était le temps des persécutions, et brûler de l'encens était le symbole même du culte rendu aux idoles. On ne pouvait donc. Les chrétiens avaient donc une forte répugnance à l'usage de l'encens. Mais une fois la paix retrouvée pour l'Église, eh bien, l'Église a utilisé l'encens pour marquer son adoration envers Dieu. C'est cela la signification de l'encens. Ces grains d'encens sont entièrement consumés. Tout l'être de l'encens est brûlé en l'honneur de Dieu. Et de cela monte vers Dieu une fumée odorante qui est le symbole de la prière. Et bien de même, toute notre vie ici-bas doit être consumée pour la louange et la gloire de Dieu. Cet encens est l'image d'une disposition intérieure. L'usage de l'encens à l'offertoire remonte environ aux environs de l'an 1000. Le prêtre met l'encens et récite une prière qui signifie justement, qui demande à Dieu que la prière monte comme l'encens devant sa face. On peut noter aussi qu'à l'offertoire, on encense d'abord les oblats, le pain, le vin, puis le prêtre, puis les servants, et enfin toute l'assemblée. La raison est qu'en fait, ce qu'on encense, c'est ce qui est offert, c'est-à-dire c'est tout cela, le Christ uni à son corps mystique. Après l'encensement vient le lavabo, le prêtre se lave les doigts, les extrémités du pouce et de l'index, il va pour cela au coin droit de l'autel, et ce rite a deux raisons. D'abord une raison naturelle, avec l'encensement le prêtre aurait pu se salir un peu les mains, mais ce n'est pas la raison essentielle, car si c'était là la raison essentielle, ce ne serait pas le lavement uniquement du bout des doigts, mais de toutes les mains. Et une raison spirituelle, qui est d'indiquer la pureté parfaite qu'il faut avoir pour offrir le sacrifice de notre Seigneur. Pendant ce temps, le prêtre récite le psaume 25 qui rappelle l'innocence et la pureté qu'il faut avoir pour présenter l'offrande du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le prêtre invoque l'aide de Dieu pour ne pas tomber dans les fautes comme les pécheurs et ne pas mériter la condamnation. Et c'est conclu par le Gloria Patri qui est omis aux messes des morts et pendant la Passion, car Le Gloria Patri est une invocation de joie. Après cela vient une dernière oblation, l'oblation finale, qui récapitule tout cela. C'est le Suscipe Sancta Trinitas, recevez Trinité Sainte, cette offrande. Le prêtre la récite, les mains jointes, posées sur l'autel. Certains ont attribué cette prière à Saint Ambroise, au IVe siècle, et en effet, on voit qu'elle figure dans le missel ambrosien, en usage à Milan. À l'origine, c'était une prière de dévotion qui, par la suite, est rentrée dans le rite lui-même. Le culte qui est offert à la messe s'adresse à toute la Trinité. Voilà pourquoi on commence par ces mots « Recevez Trinité Sainte ». Cette oblation, c'est-à-dire l'oblation du corps mystique du Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, auquel sont unis tous les fidèles. En mémoire de la Passion, car le sacrifice est identique à celui de la Passion, de la Résurrection, car la résurrection prouve l'efficacité de ce sacrifice, c'est la conséquence logique du sacrifice du Christ, il nous montre la divinité de Jésus-Christ, et si Jésus-Christ n'était pas Dieu, son sacrifice n'aurait guère de valeur, et de l'ascension, car l'ascension est le fruit du sacrifice de la croix. Il marque l'entrée au ciel de tous les élus de l'Ancien Testament. C'est à l'ascension de Jésus-Christ que les portes du ciel ont été rouvertes de nouveau. En l'honneur de la bienheureuse Vierge Marie, on invoque celle qui a donné la nature humaine au Verbe de Dieu, cette nature humaine qui sera immolée sacramentellement bientôt. Saint Jean-Baptiste, le précurseur, qui a dit « Voici l'agneau de Dieu », l'agneau de Dieu qui symbolise le Christ immolé. Saint Pierre et Saint Paul qui ont prêché Jésus-Christ aux Juifs et aux païens. Et historum, et ceci, on parle des saints dont les reliques sont dans l'autel, et de tous les saints, qui eux aussi ont été des victimes agréables à Dieu, qui se sont unis tout au long de leur vie au sacrifice de Jésus-Christ. On demande que cela serve à leur honneur, et qu'ils intercèdent pour nous. La croix de Jésus-Christ, en effet, est l'honneur des saints. Ils ont porté la croix à sa suite, et c'est pour cela qu'ils sont glorifiés. Comme Jésus-Christ qui est glorifié au ciel pour s'être offert à son Père par la croix. Et cette offrande servira à notre salut. Il y a là un rappel de la communion des saints. Du haut du ciel, les saints intercèdent auprès de Dieu pour nous, et nous les invoquons et nous les louons d'avoir imité notre Seigneur Jésus-Christ. Et cet échange entre l'Église du ciel et l'Église de la terre se réalise en Jésus-Christ, dont nous sommes tous les membres de son corps mystique, l'Église militante, l'Église triomphante et le purgatoire, l'Église souffrante. Vient la prière de l'Orate Fratres, le prêtre baise l'autel qui symbolise le Christ et se tourne vers les fidèles en écartant les mains et en les rejoignant. Et il poursuit la prière en se retournant vers le missel. Cette prière se généralise du 9e au 11e siècle. Et c'est la dernière salutation que fait le prêtre avant d'offrir le sacrifice proprement dit. Il ne se tournera plus vers les fidèles que dans les rites de la communion, pas avant. Avant d'entrer dans le Saint des Saints, dans la partie la plus sainte de la messe, le prêtre demande les prières des fidèles. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, on voit là toujours la distinction entre la mission du prêtre et le rôle des fidèles, mais les fidèles s'offrent aussi en sacrifice. Les fidèles et le prêtre s'unissent à la victime, et le prêtre, en outre, agit en tant que sacrificateur. C'est lui qui sacrifiera la victime sur l'autel, par les paroles de la consécration. Et les fidèles répondent, Suscipiat. Dans cette réponse, on voit à la fois la fin d'adoration, la louange et la gloire de son nom, la gloire de Dieu, et aussi la demande pour notre bien et celui de toute la Sainte Église. Le prêtre ensuite prononce une oraison à voix basse, qui pour cette raison s'appelle la secrète. Et à l'origine, il n'y avait que cette prière de la secrète. Donc toutes les prières que nous avons vues, eh bien, n'existaient pas dans les 3 ou 4 premiers siècles de l'Église. On a vu, elles ont été ajoutées par la suite pour préciser le sens de l'offrande. Et ces secrètes, eh bien, peuvent se résumer en 2 idées. On demande que Dieu accueille favorablement les dons qui lui sont faits, et que, par sa grâce, Dieu nous mette en état de lui être nous-mêmes, de lui être aussi présenté comme une offre, comme une hostie agréable. Alors, en quelques mots, l'offertoire s'articule ainsi. Il y a d'abord l'offrande du pain et du vin, et c'est en fait l'offrande de Jésus-Christ que l'on présente au Père. Par avance, on offre le Christ qui va être immolé. Il y a ensuite l'offrande que les fidèles font d'eux-mêmes en s'unissant à Jésus-Christ, unique victime, par la grâce divine. C'est notamment, eh bien, quand ils offrent leur sentiment d'humilité et de contrition, de sorte de ne faire plus qu'un avec Jésus-Christ. Vient enfin l'offrande de la victime, c'est-à-dire le corps mystique du Christ tout entier, ou le Christ total, pour prendre une expression plus moderne. Revenons un peu en arrière maintenant pour voir l'offertoire selon le nouveau rite. Et avant cela, eh bien, il est bon de faire un aperçu général de la liturgie eucharistique, donc cette seconde partie de la messe. C'est le numéro 48 de la présentation générale du missel. La dernière scène, où le Christ institue le mémorial de sa mort et de sa résurrection, est sans cesse rendue présente dans l'Église, lorsque le prêtre, représentant le Christ Seigneur, fait cela même que le Seigneur lui-même a fait et qu'il a confié à ses disciples pour qu'il le fasse en mémoire de lui, en instituant ainsi le sacrifice et le banquet pascal. En effet, le Christ prit le pain et la coupe, rendit grâce, fit la fraction et les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, buvez, ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. » Aussi, l'Église a-t-elle distribué toute la célébration de la liturgie eucharistique, en partie qui correspondent à ses paroles et à ses actes du Christ. De fait, dans la préparation des dons, aujourd'hui cela équivaut à l'offertoire, on parle de préparation des dons et non d'offertoire, on apporte à l'autel le pain et le vin avec l'eau, c'est-à-dire les éléments que le Christ a pris dans ses mains. Dans la prière eucharistique, on rend grâce à Dieu pour toute l'œuvre du salut, et les dons offerts deviennent le corps et le sang du Christ. La fraction du pain, unique, manifeste l'unité des fidèles, et par la communion, les fidèles reçoivent le corps et le sang du Seigneur de la même manière que les apôtres les ont reçus des mains du Christ lui-même. Donc, cette liturgie eucharistique est uniquement là pour refaire ce qui s'est passé le soir du Jeudi Saint. La présentation des dons correspond finalement à ce que le Christ a fait en prenant du pain et en prenant une coupe avec du vin et un peu d'eau. C'est cela, uniquement. Et on le verra que les prières et les rites indiquent bien cela. Il ne s'agit plus, comme nous le verrons, de l'offrande de Jésus-Christ lui-même, par avance, mais d'une présentation du pain et du vin. Tout est orienté, finalement, vers la dernière scène. Et c'est dans cette dernière scène que le Christ a institué le mémorial de sa mort et de sa résurrection. On commence, là encore, par le chant d'offertoire. N'existe, qui n'est dit, que s'il y a une procession qui apporte les dons. La présentation générale du missel recommande de faire présenter le pain et le vin par les fidèles, et alors le prêtre les dépose sur l'autel. On veut signifier par là un retour à l'usage primitif de l'Église. Après cela vient l'offrande du pain. Et cette formule n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Vous l'avez, c'est en bas de la page. C'est l'offrande du pain, c'est dans la deuxième partie de la page 3. Tu es béni du Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. On fait ici mention du pain, de la terre et du travail des hommes, et ce pain est présenté à Dieu. Nous l'avons vu dans la prière du rite traditionnel, c'était le Christ qui était offert. Alors d'où vient ce texte qu'on emploie dans la nouvelle messe? Eh bien, c'est une bénédiction biblique par laquelle, dans l'Ancien Testament, on bénissait Dieu pour les dons qu'il nous avait faits. Et ici, on bénit Dieu pour le pain qu'il nous a donné. Chez les Juifs, on appelait cette prière une petite bérakote. Le prêtre ensuite verse le vin dans le calice et une goutte d'eau. Et pendant ce temps-là, il récite la prière. C'est la même prière que ce qui existait auparavant, mais abrégée. Quand je dis c'est la même prière, en latin. Parce qu'en français, la traduction, elle, est assez libre. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, eh bien, si on traduit le latin mot à mot, ça donne « Par le mystère de cette eau et de ce vin, fissions-nous, etc. » Donc vous voyez, de « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance » à « Par le mystère de cette eau et de ce vin », le sens n'est quand même pas tout à fait identique. Et c'est vrai qu'on perd là un peu la notion de mystère. Comme cette eau se mêle au vin, c'est une chose qui paraît naturelle au sacrement de l'Alliance. Alors que mystère de cette eau et de ce vin indique justement une réalité secrète, qui n'est pas précisée, mais indique qu'il y a quelque chose. Notons aussi que dans la Maison Dieu 69, le livre dont je vous parlais la dernière fois, le commentaire à la Nouvelle Messe, par un dominicain, eh bien, l'auteur du commentaire souhaitait que cette prière, dans sa traduction, soit quelque peu, entre guillemets, adoucie. C'est ce qui a été fait. Après vient l'offrande du vin. Il y a une formule similaire à celle du pain. Notons encore là, au niveau de la traduction, le royaume du vin éternel en français. Dans le texte latin, nous avons potus spiritualis, boisson spirituelle. Boisson spirituelle, cela peut faire penser à des réalités supérieures. Le vin du royaume éternel, c'est beaucoup moins explicite. Suit la prière humble et pauvre, nous te supplions. Eh bien, cette prière, en latin, est la même que dans le rite traditionnel. Donc, le texte que vous avez à gauche devrait être le même à droite. Mais on l'a traduit de cette manière-là. Il y a quand même quelques différences. Et ces différences, eh bien, c'est surtout la contrition, le cœur contrit. C'est encore la notion de péché qui, eh bien, disparaît. Il reste quand même, notons-le, le mot sacrifice, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Mais de quel sacrifice s'agit-il? Nous l'avons vu précédemment, l'oblation du pain et du vin signifiait l'oblation du Christ. Et cette prière rappelait l'oblation des fidèles, de notre humilité et de notre contrition. Donc la seule oblation qu'il reste, après avoir présenté à Dieu le pain et le vin, c'est l'oblation des fidèles, de nous-mêmes, donc de nos sentiments. Donc c'est le sacrifice, eh bien, de l'assemblée, et non plus de notre Seigneur Jésus-Christ. En outre, la prière Veniez sanctificateur, qui était là pour ratifier un peu cette offrande, pour tout unir en Jésus-Christ, a été supprimée. Et cela est naturel, puisqu'il n'y a plus finalement que l'offrande, que les fidèles font de même. Dans le nouveau rite, l'encensement est encore possible, mais il n'y a plus de formule particulière. Le lavabo, la prière du lavabo a été réduite, il ne reste plus que le premier verset du psaume 25, qui symbolise toujours ce désir de purification intérieure et la notion de péché. Et notre même commentateur de l'offertoire du nouveau rite, le père Niels Krogh Rasmussen, OP, dominicain, eh bien lui n'hésite pas à préconiser d'omettre ce lavabo. Il trouve ce rite ridicule, car se laver le bout des doigts, ça ne veut pas dire grand-chose. Ou Aldor dit, si on se lave les mains, ben, on se lave sérieusement et totalement. Ce désir de purification, eh bien, laissait sous-entendre qu'il y avait après quelque chose d'important, et plus qu'une simple mémoire d'un fait passé. L'orate fratres, nous avons maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Eh bien, là encore, le texte latin est le même que le texte traditionnel. Donc, priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, puisse être agréé par Dieu le Père Tout-Puissant, devient maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Je vous expliquerai comment on peut traduire ça ainsi. Mais cela a une signification. Tout d'abord, on ne distingue plus le sacrifice du prêtre du sacrifice des fidèles. On ne parle plus que du sacrifice de toute l'Église, de l'Assemblée, finalement. Et ensuite, eh bien, l'expression, donc cette prière-là, encore, et ce phénomène de traduction, plus que qui ne sont que des trahisons, en fait, eh bien, est fréquent. On le verra encore plus loin dans le canon de la messe. Ici, le mot sacrifice est encore présent, mais on parle du sacrifice de toute l'Église. Et comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, le seul sacrifice qui ait lieu, c'est celui que les fidèles font de leurs sentiments, de leur union entre eux. C'est la louange qu'ils adressent à Dieu. Alors, à la fin de l'offertoire, eh bien, on peut se demander de quoi il s'agit. Est-ce qu'on offre seulement du pain et du vin ? Ou est-ce qu'on offre par avance le sacrifice de Jésus-Christ auquel les fidèles se sont unis? Eh bien, le numéro 48 de la présentation des dons, que je vous lisais tout à l'heure, eh bien, lui est clair. Il nous fait pencher vers la première solution. La préparation des dons consiste à apporter sur l'autel le pain et le vin avec l'eau, c'est-à-dire les éléments que le Christ a utilisés. Même si on a conservé intact deux prières de l'ancien offertoire, même si on a simplement abrégé deux autres, et qu'on en a modifié totalement deux, ainsi que supprimé une, eh bien le sens, lui, n'est plus du tout le même. La victime qui est offerte n'est plus la même, là, c'est l'Assemblée, c'est le peuple de Dieu qui offre son sacrifice de louange. Ça n'est plus le sacrifice du Christ. Ici, l'aspect du sacrifice du Christ est presque totalement évacué. Il y avait encore un aspect dans l'orate fratres, mais là, bien malheureusement, la traduction l'a fait disparaître. Voilà ce que l'on peut dire en quelques mots de l'offertoire. Voyons maintenant, commençons la seconde partie, le canon de la messe, la partie centrale, vraiment, de tout. Le canon, qui dans l'ancien rite est fixe, ne connaît pas de changement, à part quelques prières qui changent pour Pâques ou la Pentecôte. Mais cela est extrêmement rare et ce sont des changements très faibles. Il y avait donc dans l'ancien rite une seule prière, le canon. Pour le nouveau rite, il y a quatre prières eucharistiques, c'est l'équivalent du canon. C'est les quatre qui sont mises dans le missel publié en 69 par le pape Paul VI. Mais les commissions épiscopales pour la France en ont rajouté six autres. Nous sommes donc maintenant pour la France à, et pour les pays francophones, à 10 prières eucharistiques différentes. Pour les officiels, j'entends, car il y a en plus toutes celles qui sont inventées ici ou là. Pour nous, nous nous contenterons de voir les quatre contenus dans le missel et encore assez rapidement. Le canon de la messe commence avec eh bien, la préface. Dans l'ancien rite, comme le nom l'indique, la préface, eh bien, il s'agit là d'une préparation à ce qui va suivre, au canon proprement dit. Et cette préface se trouve dans tous les rites et dans tous les sacramentaires. C'est là le signe qu'elle remonte aux apôtres eux-mêmes, pour qu'on la trouve partout, aussi bien chez les Grecs que chez les Latins, à toutes les époques, il faut une source commune, et cette source commune, ce sont les apôtres. Et peut-être même notre Seigneur Jésus-Christ. Elle commence par une invitation à élever nos cœurs vers Dieu. Le Sursum corda, par exemple, se trouve déjà chez Saint Cyprien au IVe siècle. Les Grecs n'ont qu'une seule préface. Chez les Latins, il y en a plusieurs. Du VIe au XIe siècle, elles se sont multipliées. Puis vers l'an 1100, elles ont été ramenées à 10. Et après, l'Église en a rajouté quelques-unes, notamment celle du Sacré-Cœur, Christ au Roi, etc. Le prêtre dit Dominus vobiscum et ne se retourne pas vers les fidèles. La raison est que, eh bien, les rideaux qui séparaient le sanctuaire des fidèles, dans l'Église latine, au début, avaient été tirés. Donc, il n'y avait plus de raison de se retourner vers les fidèles. De même, chez les Grecs, l'iconostase avait été fermée. Les portes de l'iconostase, donc cette cloison peinte avec des icônes, avaient été fermées. Voilà pourquoi le prêtre ne se tourne pas vers les fidèles. Sursum corda, il invite à élever son cœur vers Dieu, c'est-à-dire à le libérer des liens de la terre, des soucis quotidiens pour s'adresser à Dieu. Et c'est cela la prière. La prière est cette élévation de l'âme vers Dieu, l'âme qui s'échappe à tout le quotidien pour ne plus s'occuper que de Dieu. Et les fidèles répondent, Habemus et Dominum, nous le tournons vers le Seigneur. Et cela doit être une réalité, qu'à ce moment-là, vraiment, nous soyons entièrement donnés à la prière. Gratias agamus, nous rendons grâce, cela indique l'objet de la prière, rendre grâce à Dieu. Et cette action de grâce est plus qu'un simple remerciement pour des bienfaits reçus. Cela contient aussi toute l'adhésion au plan de Dieu sur nous. Donc, eh bien, reconnaître Dieu comme le souverain maître, l'adoration et aussi la demande. Et il est juste et bon de rendre grâce à Dieu. Et le prêtre confirme cela en commençant la préface, Vere dignum et justum est. Il s'adresse à Dieu comme Seigneur, c'est-à-dire maître de toutes choses, créateur de tout, donc il affirme le souverain domaine de Dieu en tout, comme Père, Dieu est notre Père, et comme Tout-Puissant, celui qui a fait tout ce qui est bon. Dès qu'il y a une chose bonne, soit dans l'ordre de la nature ou de la grâce, cela vient de Dieu. Dans les préfaces propres à certaines fêtes, il y a ensuite un exposé du mystère célébré ce jour-là. Et enfin, on demande à Dieu d'unir notre louange à celle des anges. Et cette louange des anges, c'est celle du Sanctus. Le Sanctus se trouve dans toutes les liturgies. Et on en trouve une trace dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui a entendu ce chant dans la vision qu'il a eue du ciel quand il était à Patmos. Le Sanctus correspond vraiment donc au culte qui est rendu par au ciel, par les anges et tous les saints. Deus Sabaoth, il s'agit du Dieu des armées célestes, donc le Dieu des anges, avec lequel nous unissons nos voix. Quant au terme Hosanna, il signifiait « sauver, je vous prie ». C'est une invocation de demande chez les Juifs, c'est de l'hébreu. Et avec le temps, c'est devenu un cri de joie et de jubilation, un peu l'équivalent des vivas. Le Benedictus, lui, est emprunté à l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem le dimanche des rameaux. C'est ce que disait la foule sur son passage. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna in excelsis. » C'est donc un chant de louange à notre Seigneur Jésus-Christ et à toute la Trinité. Le prêtre récite cette prière inclinée pour rappeler bien le tremblement des anges devant le Seigneur. Ils sont impressionnés par la grandeur de Dieu. Dans le nouveau rite, eh bien, vous pourrez voir une à une les nouvelles préfaces, elles sont encore plus nombreuses, et cela prendrait bien du temps. Notons simplement ce que dit la présentation générale de la préface. Le sens de cette prière est que toute l'assemblée des fidèles s'unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. Donc c'est encore là l'assemblée qui est mise en avant, ce qui n'est pas entièrement faux ici. En fait, c'est tous ceux qui sont présents qui s'unissent à la louange divine. Voyons maintenant le canon proprement dit et ou appelé aussi prière eucharistique dans le nouveau rite. Le mot de canon qui désigne les prières qui vont donc du Teigitur jusqu'au pater exclu, ce mot de canon vient du grec et signifiait à l'origine une canne, un bâton qui servait de mesure. Un peu l'équivalent du mètre étalon. Vous savez, quand la Révolution française a imposé le mètre comme unité de mesure, elle a fait une barre de métal, un métal qui était assez peu sensible aux variations de chaleur, notamment dans sa taille, pour servir de mesure. Donc, ce canon est devenu finalement une règle intangible, une mesure qui ne change pas. Et naturellement, on l'a donné aux prières qui entourent la consécration. Le pape Vigile, qui est mort en 555, appelle cet ensemble de prières, la prière canonique. Saint Augustin, Saint Cyprien, eux, en parlent comme de la prière par excellence. Le Concile de Trente nous dit que ces prières du canon sont tirées des paroles de Jésus-Christ, des traditions des apôtres et de l'institution des saints papes et évêques. Et le canon tel que nous le connaissons, tel que nous le célébrons nous dans le rite de 62 et que l'a codifié le pape Saint Pie V, se trouve tel quel dans des documents remontant au 7e siècle. Certaines prières, elles, auparavant existaient déjà, mais en des termes un peu différents, qu'elles étaient substantiellement les mêmes. En revanche, les prières qui vont du quam oblationem, donc cette offrande daignez-vous Dieu la bénir, c'est en page 6, l'avant-dernière prière, jusqu'à l'unde et memores, en page 7, dernière prière de la page 7, c'est les paroles de la consécration ainsi que les paroles qui introduisent ces prières-là. Sont identiques depuis le IVe siècle. On les trouve déjà dans cette forme-là, dans la liturgie de Saint Ambroise. Notons simplement deux changements qui ont été apportés au canon. Et nous avons les traces depuis cette époque-là. Tout d'abord, celui apporté par Jean XXIII, qui a ajouté le nom de Saint Joseph dans la prière du Communicantes, unis dans la même communion. Et le changement précédent remonte à Saint Grégoire le Grand, qui a vécu de 590 à 604, et qui, dans l'Enquigitur, donc cette prière que le prêtre dit en imposant les mains sur le calice, pendant que sa voix sonne, il a ajouté « Dies qui nostros in tua pace disponas » et « Disposez nos jours dans votre paix ». Alors, pour cette étude du canon de la messe, eh bien, nous le ferons en trois parties. Tout d'abord, les prières qui vont jusqu'à au rite de la consécration, le rite de la consécration lui-même, et ce qui suit la consécration. Aujourd'hui, nous arrêterons à la consécration pour des raisons de temps. La première partie, c'est un peu la montée vers la consécration, le sommet où le Christ est immolé sacramentellement, et ensuite il y a une descente des grâces du sacrifice. Le sacrifice est offert, et ensuite les grâces se répandent sur toute l'Église. Les prières qui sont dites avant la consécration ont pour objet principal, eh bien, d'indiquer ceux pour qui ce sacrifice va être offert. Et cela commence par la prière du Te Igitur. Elle commence par un T, le T qui est un signe de la croix, surtout chez les Grecs, le Tau, et qui a naturellement été orné avec le temps dans les missels. C'est la raison pour laquelle le canon, qui auparavant commençait avec le début de la préface, que le prêtre disait, Verenim Matius tum est, eh bien, et en raison de cette typographie, eh bien, s'est placé davantage sur le Te Igitur. Cette prière est vraiment très belle et très profonde. Le Igitur, le donc, fait référence à ce qui a déjà été dit dans la préface. C'est une prière au Père par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions et nous demandons au Père. Pourquoi ces deux termes? Ça semble être une répétition. Eh bien non. Si nous prions le Père, on s'adresse à lui comme homme. Mais par Jésus-Christ, eh bien, nous lui demandons quelque chose. Parce que Jésus-Christ, en raison de sa nature divine, a un droit strict à demander à son Père une chose. Et ensuite, donc, on demande d'accepter et de bénir ec dona, c'est don, ec munera, c'est présent, ec sancta sacrificia libata, ce sacrifice saint et sans tache. Pourquoi ces trois termes encore? Ec dona, ça indique une chose que Dieu nous a donnée. Il nous a donné le sacrifice de Jésus-Christ. Ec munera, c'est un présent. C'est ce même sacrifice, cette même réalité que nous présentons à Dieu. Ex sancta sacrificia, et c'est un sacrifice. Comme quoi, dans ces six mots, il y a cette idée du don de Dieu sur nous, Dieu qui nous donne son Fils, de nous-mêmes qui offrons le Fils à Dieu en sacrifice. Il faut reconnaître que c'est admirable, cette précision théologique. En ces quelques mots, tout est dit. Ensuite, eh bien, après avoir refait l'offrande du Christ à Dieu, eh bien, on indique les motifs pour lesquels on l'offre. On l'offre tout d'abord pour l'Église, qui est le corps mystique du Christ et la société de tous les fidèles, de tous les baptisés. Et cette société est représentée d'abord dans son autorité. Voilà pourquoi on prie pour le pape et pour les évêques. Ce sont sur eux que se fondait l'Église. L'Église a été fondée sur Pierre et, dans une moindre mesure, sur les apôtres. Et on prie pour ceux qui sont fidèles à la vraie doctrine, qui gardent la foi catholique et apostolique. Il s'agit donc ensuite des membres de l'Église, surtout ceux qui ont une mission, les autres évêques et aussi les prêtres. Nous voyons dans cette prière déjà les quatre marques de l'Église. L'Église est une. L'Église est sainte, l'Église est catholique et elle est apostolique, c'est-à-dire fondée sur les apôtres et sur leurs successeurs. Il y a là une chose, bon, sur laquelle on a pas mal discuté dans les milieux de la tradition, c'est la question de l'unacum. Unacum Papa Nostro Ioanne Paolo. Faut-il dire oui ou non, hein, avec notre pape Jean-Paul? Les cédévacantistes qui affirment que Jean-Paul II n'est pas pape, eh bien, nous reprochent de nommer ici le pape. Tout d'abord, analysons le texte latin, clairement. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit « unacum ». Una est un adjectif qui se rapporte à l'Église. En fait, c'est « nous vous les offrons pour votre sainte Église catholique, une avec le pape ». Et c'est normal parce que l'Église est fondée sur Pierre. On ne dit pas « nous vous offrons pour l'Église, nous qui sommes un avec le pape ». Ça ne traduit pas notre union en tant qu'homme de tous les fidèles avec le pape, mais l'union, l'unité de l'Église fondée sur Pierre. Donc c'est quand même très différent. Donc c'est nullement une approbation de tout ce que le pape peut faire. Alors a-t-on le droit d'affirmer que Jean-Paul II est pape? Est-ce que ce n'est pas une grossière erreur? Eh bien, il faut reconnaître que aucun de nous, pas même les évêques, ne peut affirmer avec certitude que Jean-Paul II n'est pas pape. En effet, un pape ne peut être jugé que par une autorité, qu'il y soit ou supérieure ou égale. On peut être jugé par ses pairs ou par ses supérieurs, mais jamais par ses inférieurs. Eh bien, pour le pape, il peut être jugé par Jésus-Christ, son supérieur, ou par un autre pape, son successeur, parce qu'il n'y a jamais deux papes en même temps. Donc, la question de savoir si Jean-Paul II est pape sera peut-être un jour tranché par l'Église, peut-être verra-t-on un jour un pape dire « non, Jean-Paul II n'était pas pape, je n'en sais rien », et là n'est pas la question. Donc il ne faut pas se troubler, je dirais, pour cette question de l'unacum, qui n'est pas essentielle. D'ailleurs, ceux qui soutenaient que le pape pouvait être jugé par un concile, c'est-à-dire être jugé avec autorité et condamné par un concile, eh bien, cela a été rejeté par l'Église et condamné. Alors, quand on dit unacum, il ne s'agit pas d'adhérer absolument à tout ce que le pape fait. Bien sûr que non. Et au Ve siècle, on voit l'évêque de Constantinople faire scandale parce qu'il avait supprimé de cette prière, des diptyques, le nom du pape Félix II. Et le pape Saint-Pélage, au VIe siècle, écrit aux évêques de Toscane que manquer à cette pratique, c'est se séparer de l'Église universelle. C'est cité par Pierre Lebrun, donc au XVIIIe siècle, je précise. Donc maintenant, après cela, voyons le memento des vivants. Après avoir prié pour toute l'Église, eh bien le prêtre joint les mains, garde un peu le silence, la tête et la tête inclinée, pense au vivant qu'il veut spécialement recommander à Dieu. La rubrique précise d'ailleurs que le prêtre peut recommander plusieurs personnes, et pour cette raison, il peut y penser avant la messe et simplement les recommander globalement à ce moment-là à l'autel, pour ne pas ennuyer les assistants par une liste trop longue d'intentions. Depuis le XIIIe siècle, l'usage s'est perdu de nommer à voix haute les personnes pour qui on disait la messe, notamment ceux qui faisaient des offrandes pour la messe, car il y avait là un danger très net de vaine gloire. Cette prière du memento continue la prière précédente. On le voit d'ailleurs, la précédente prière n'est pas conclue par un amen. Et on prie maintenant pour les membres de l'Église, spécialement pour ceux qui assistent à la messe et ceux pour qui la messe est offerte. On demande pour eux la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés, la sécurité, c'est-à-dire la persévérance dans le bien, et le salut, le bonheur du ciel. Le prêtre prie ici pour les fidèles et non pas pour les infidèles. De même, il prie pour ceux qui offrent eux-mêmes ce sacrifice, et non pas ceux qui assistent sans trop penser à ce qui se passe à la messe.
Là encore, c'est une prière pour l'Église. Ceux qui sont hors de l'Église ne sont pas inclus dans ces prières de demande. Et cela se comprend d'ailleurs à ce niveau-là, puisque c'est une prière d'offrande encore. On offre pour l'Église, mais ce sont des gens qui peuvent offrir, parce qu'ils sont vivants, le sacrifice de la messe. Et ils le font en union avec l'Église militante. La prière, le communicantes, qui a parfois des communicantes propres pour certaines fêtes. Ceux qui offrent ce sacrifice, eh bien, c'est toute l'Église de la terre. Et ils le font en union avec l'Église du ciel. L'Église triomphante, les saints du ciel, intercèdent pour ceux de la terre, afin que ceux de la terre obtiennent de Dieu les secours et la force nécessaires pour bien agir dans cet acte si saint de la messe. Il y a là une affirmation de la communion des saints, et nous sommes nous-mêmes unis aux saints du ciel en les honorant. Eux, ils intercèdent pour nous auprès de Jésus-Christ. On invoque ici la Mère de Dieu, Notre-Dame, Saint Joseph, depuis Jean 23, les 12 apôtres, et enfin 12 martyrs, dont les 5 premiers furent papes. Le culte des saints non-martyrs, lui, n'a commencé qu'après le 3e siècle, notamment avec Saint Martin de Tours. Cette prière se conclut par l'Amen, qui montre bien qu'il y a en fait une unité entre ces trois prières. Dans ces prières, on offre pour une troisième fois le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ et on indique les intentions pour lesquelles ce sacrifice est offert, c'est-à-dire pour l'Église militante avec l'aide et l'intercession de l'Église du ciel. Après cela, avec la prière en Kigitur, voici donc l'offrande, commence le rite de la consécration. C'est là le centre de la messe où la victime sainte et sacramentellement immolé. Il y a 4 prières, proprement dites, dans ce rite de la consécration. L'enquisitour, tout d'abord, le prêtre étend les mains sur les oblats pendant que le servant sonne la cloche. La clochette indique qu'on entre, eh bien, dans la consécration elle-même. Et l'imposition des mains rappelle ce rite de l'Ancien Testament par lequel on substituait l'animal qu'on offrait en sacrifice à nous-mêmes. On disait à Dieu: je ne peux pas m'offrir en sacrifice moi-même, tu n'acceptes pas les sacrifices humains. Eh bien, recevez cet animal, son immolation, eh bien, se substitue à l'immolation que je voudrais faire de moi-même à vous. Donc, vraiment, à ce moment-là, l'animal est député pour le sacrifice. Cette prière de l'Enquisitour est antérieure au pape Vigile, donc avant l'an 555. Il se fait l'écho du Teigitur qui marquait l'entrée dans le canon et récapitule et conclut les 3 prières précédentes. Voici donc l'offrande que nous vous présentons, nous vos serviteurs, avec votre famille entière. Donc c'est l'offrande que le prêtre fait avec les ministres du culte, nous vos serviteurs, et avec toute l'Église. Et il demande à Dieu, eh bien, de l'accueillir pour les mêmes intentions. La paix de notre vie ici-bas, échapper à la damnation et parvenir au ciel. Notons un peu la paix pour les jours de notre vie. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cette paix signifie la grâce de Dieu, car c'est la grâce qui nous établit en nous cette paix. Et la paix est le fruit de la charité. Ces quelques mots ont été mis dans le canon par Saint Grégoire le Grand à la fin du 6e siècle. Suit la prière du Quam Oblationem, cette offrande, daignez-vous, notre Dieu, la bénir et l'agréer. Le prêtre fait 3 signes de croix sur le pain et le vin ensemble, puis un signe de croix sur le pain et sur le vin. Ces signes de croix désignent l'offrande qui est celle du Christ, qui sera présent sous les apparences du pain et du vin. puis sur le pain, qui sera le corps, et sur le vin, qui sera le sang. Les signes de croix ont réellement une fonction de désignation. Et cela est important. Cela indique que c'est ce pain qui sera le corps du Christ. C'est ce vin qui sera le sang du Christ. Donc cette offrande, eh bien, c'est cette offrande dont nous avons parlé jusqu'à maintenant. Et on demande à Dieu de la bénir, c'est-à-dire de la dire bonne. Cela, c'est une demande déjà de la transubstantiation, de ce passage du pain au corps du Christ. On demande à Dieu de la ratifier, c'est-à-dire que cette offrande soit définitive et que cette offrande de nous-mêmes, nous ne la remettions plus jamais en cause. Ad scriptam, donc accepté, eh bien, que Jésus-Christ accepte notre offrande jointe à celle du Christ. Celle du Christ est parfaite, mais la nôtre est souvent imparfaite. Rationabilem, raisonnable, cela désigne eh bien la victime, qui, elle, sera une victime raisonnable, c'est-à-dire l'humanité de Jésus-Christ, qui est, bien évidemment, douée de raison. Il ne s'agit pas d'une victime sans raison, comme les animaux, mais du Christ lui-même. Ut nobis corpus, qu'elle devienne ainsi pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est une demande claire de la transubstantiation, et cette prière indique clairement ce qui va se réaliser. Quant au pour nous, c'est-à-dire pour notre utilité et pour notre avantage, ça ne veut pas dire pour moi, je crois que c'est le corps du Christ. Ce n'est pas un sens subjectif, mais ça indique bien l'utilité et l'avantage, et non pas le selon moi, selon mon opinion. Après cela vient la consécration. Je vais passer assez rapidement, on pourrait faire des conférences entières sur ce sujet. Le prêtre commence par s'essuyer le pouce et l'index de chaque main sur le corporal, puis prend le pain ou le calice, il bénit, il élève les yeux au ciel comme a fait notre Seigneur Jésus-Christ, il rend grâce en inclinant la tête, il s'accoude à l'autel, se penche, s'appuie sur l'autel, et avec un ton de voix impératif, prononce les paroles de la consécration. Ceci est mon corps, ou ceci est la coupe de mon sang. Et il fait la génuflexion, élève l'hostie, et fait la génuflexion. Il y a là, on le remarque bien, un changement dans le style des prières. Jusqu'alors, nous avions des prières de demande. On s'adressait à Dieu. Ici, on est en face d'un récit. C'est le récit de ce que Jésus-Christ a fait le soir du jeudi saint. Et le prêtre refait tous les gestes que Jésus-Christ a fait à la scène. Mais le silence, le prêtre dit cette prière à voix basse. Eh bien, cela nous montre bien qu'il ne s'agit pas d'un acte de nature théâtrale, d'un théâtre sacré. Le prêtre refait réellement ce qu'a fait le Christ. Et quant aux paroles de la consécration, elles sont imprimées de manière différente et elles sont dites sur un ton différent, un ton impératif, un ton de commandement. Cela indique donc clairement qu'il s'agit d'un acte sacramentel. Et c'est le Christ lui-même qui agit à travers le prêtre. Le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang ». Et c'est le sang du Christ, le corps du Christ, qui est présent. Nous avons quatre récits de l'institution de l'Eucharistie dans la Sainte Écriture. Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et les Actes des Apôtres. Et le texte de la consécration n'est aucun de ces quatre textes. Il n'est même pas une synthèse de ces textes. Mais plutôt, il s'agit d'un texte à part. En effet, toutes les églises, qu'elles soient latines, grecques ou orientales, ont les mêmes formules de la consécration. Cela est commun à toute l'église. C'est bien la preuve que ces paroles sont d'origine apostolique. Elles ont été transmises par les apôtres, et sans doute, très probablement même, les apôtres les tenaient de Jésus-Christ. pendant les 40 jours qui ont suivi sa résurrection, notre Seigneur les a enseignés et il leur a sûrement indiqué la manière de célébrer la messe. Il y a ensuite l'élévation. Cette élévation se fait seulement depuis le XIIe siècle. Cela s'est fait pour répondre à l'hérésie de Béranger qui niait la présence réelle. Elle est précédée de la génuflexion qui indique que le corps et le sang de notre Seigneur sont présents par le seul fait des paroles de la consécration. Et après l'élévation, il y a une génuflexion. Notons-le, l'élévation n'est pas un acte d'oblation. On n'offre pas à Dieu l'hostie. Simplement, le prêtre la présente aux fidèles pour qu'ils l'adorent. Et c'est le sens de la sonnette, c'est eh bien attirer l'attention des fidèles. Quelques mots sur la consécration du vin. La prière est un peu plus longue. Il est dit, eh bien, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il y a eu une première alliance entre Dieu et les hommes qui s'est faite au pied du mont Sinaï. Vous connaissez dans l'Écriture sainte. Et Moïse avait immolé de nombreuses victimes animales. Et pour ratifier cette alliance avec Dieu, il a aspergé tout le peuple avec le sang des victimes, en disant, c'est le sang de l'alliance que le Seigneur a contracté avec vous. C'est dans le livre de l'Exode ainsi que dans l'Épître aux Hébreux. Eh bien, la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes se réalise dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été répandu sur la croix. Et cette nouvelle alliance rend caduque l'ancienne, qui n'était qu'un signe et une annonce de la nouvelle. Il y a encore ces mots « mysterium fidei ». Mysterium ici a le sens de secret, réalité secrète, qui est vraiment au centre de la foi chrétienne, la chose qui est la plus grande. C'est en effet par là que nous avons été rachetés, par le sang d'un Dieu. Ça montre bien aussi le caractère sacramentel de ce qui se réalise ici. Qui pro vobis et pro multis et fundetur, eh bien, qui sera versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés, cela désigne les fruits du sacrifice. Car le sacrifice est réellement présent à la consécration. Plusieurs théologiens, d'ailleurs, voient un signe de cela dans la double consécration. Il y a le pain, le corps du Christ d'un côté, et de l'autre, il y a le sang du Christ, qui sont sacramentellement séparés. Et cela indique le Christ immolé, comme sur la croix, où le sang était séparé du corps. Le fait qu'il y avait d'abord du pain, puis le corps du Christ, eh bien, l'Église, pour désigner cela, utilise le terme de transsubstantiation. Là, c'est une notion philosophique peut-être un peu plus compliquée, mais je vais en quelques mots essayer de l'éclaircir. Dans les réalités, il y a deux choses. Il y a d'abord ce qu'on appelle les substances, ce que sont les choses. Il y a des êtres qui existent par eux-mêmes, une table, un mur, une maison, une personne vivante. Elles existent par eux-mêmes. Elles sont. Et d'autres réalités qui n'existent pas, toutes qui ont besoin d'autres choses pour exister. Ce sont les qualités, par exemple. Le fait d'être grand, la blancheur, tout cela, quelque chose de grand. Le grand n'existe pas par lui-même. Il doit être mis dans une maison, dans un être humain, dans une montagne. La notion de la grandeur n'existe pas séparément. C'est ce qu'on appelle des accidents. Vous voyez, ces qualités sont des accidents. De même, la blanchœur, il faut un mur ou d'autres choses, d'autres qualités pour que la blanchœur ait un support à l'existence de cela. La substance, elle, c'est ce qu'est la chose. C'est vraiment ce qu'il y a de plus profond dans l'être. Eh bien, dans la transsubstantiation, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord le pain. Le pain, c'est la substance du pain, ce qu'est le pain qui existe, qui a des qualités. Qualité de couleur, de goût, de forme, une quantité déterminée. Ce sont les accidents. Par les paroles de la consécration, eh bien, la substance du pain n'existe plus. Il y a à la place de la substance du pain, la substance du corps du Christ. Ce qui fait que l'hostie est réellement le corps du Christ, mais conserve tous les accidents du pain, la couleur, le goût, la forme, le poids, tout cela. De telle sorte que si on faisait une analyse chimique de l'hostie après la consécration, on ne verrait aucune différence au niveau sensible, car les accidents demeurent les mêmes. Donc voilà ce que l'Église a défini comme étant de foi pour la transsubstantiation. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Jésus-Christ est réellement et substantiellement présent sous les apparences du pain et du vin. Il n'y a plus de pain, il n'y a plus de vin, il n'y en a plus que les apparences. Il y a le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Notons encore que ce qui est présent sous les apparences du pain, c'est d'abord le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son corps. Mais aujourd'hui, le Christ est ressuscité, il est vivant au ciel. Et avec ce corps, il y a naturellement le sang, l'âme et la divinité qui sont unis. Pour prendre un exemple simple, si j'aperçois par la fenêtre la tête d'un voisin, je sais que tout le voisin est là présent, tout son corps, même s'il n'y a que la tête, parce qu'on ne peut pas séparer la tête du reste du corps. C'est assez difficile du moins. Ben, pour notre Seigneur Jésus-Christ, on ne pourra jamais séparer Jésus-Christ de son âme. Il est vivant pour l'éternité, il ne mourra plus. Donc s'il y a le corps, Jésus-Christ est là entièrement présent. S'il y a le vin, Jésus-Christ est là présent entièrement avec son corps, son âme et sa divinité sous eh bien, les apparences du vin. Voilà pourquoi à la communion, quand on reçoit uniquement l'hostie, on reçoit le Christ tout entier. Si les apôtres avaient dit la messe et fait la consécration le samedi saint, quand Jésus-Christ était au tombeau, était mort, là, il n'y aurait eu réellement que le corps et la divinité, car le sang était séparé, ainsi que l'âme du Christ. L'âme du Christ était au limbe. Donc, voyez. Donc, c'est quelques mots pour la transsubstantiation. Et, eh bien, la consécration se termine par ces mots de l'institution du sacerdoce. Notre Seigneur donne aux apôtres le pouvoir de faire comme lui. Toutes les fois que vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Après, eh bien, la prière de l'Unde et Memores. Là, le style change de nouveau. Après la partie sacramentelle, eh bien, on retrouve les prières de demande, les prières de l'Église. Le style change. Ce n'est plus un récit, ce n'est plus un acte efficace, mais c'est une demande. Mais tout cela, eh bien, nous le verrons la prochaine fois, parce qu'il est déjà bien tard. Quelques mots simplement pour le nouveau rite. On va reprendre un petit peu en arrière. Rassurez-vous, ça ira assez vite, il y a beaucoup de blanc. Pour comprendre cela, eh bien, il faut dire que la consécration est le centre et le sommet de la célébration. Et que la prière eucharistique, nous dit la présentation générale du nouveau missel, est la prière d'action de grâce et de consécration. Le sens de cette prière est que toute l'assemblée des fidèles s'unisse au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. Donc c'est un sacrifice de louange, essentiellement. L'action est mise sur la louange et sur l'assemblée, et non pas sur le sacrifice. Il y a déjà un déplacement d'action. Et le numéro 55 donne les éléments principaux de la prière eucharistique. Ça, nous verrons un petit peu. L'action de grâce, principalement dans la préface, l'acclamation, le sanctus. Puis vient l'épiclèse. C'est donc, nous arrivons déjà en page 6. L'épiclèse, sous ce nom grec, qui se veut savant, eh bien, par des invocations particulières, l'Église implore la puissance divine pour que les dons offerts par les hommes soient consacrés, c'est-à-dire deviennent le corps et le sang du Christ, et pour que la victime sans tache qui sera reçue dans la communion profite au salut de ceux qui vont y participer. Donc on demande à Dieu que ça soit consacré, c'est-à-dire que ça devienne le corps et le sang du Christ. Notons-le, il n'y a pas marqué pas la présence substantielle, dont offert par les hommes soit consacré. Bon. Ça n'est pas, il faut reconnaître, un texte extrêmement clair que nous avons ici. Après, donc, l'épiclèse, que l'on retrouve dans les prières 2, 3 et 4, hein, vient l'anamnèse, mais nous aurons l'occasion, donc, d'y revenir. Arrêtons-nous d'abord, si vous voulez bien, à la prière eucharistique numéro 1, dite le canon romain, car elle reprend mot à mot, dans le texte latin, les prières traditionnelles que nous avons expliquées. Voilà pourquoi nous n'y reviendrons pas. Simplement, on peut noter quelques changements, la disparition de quasiment tous les signes de croix, il doit en rester trois à peine, dans tout le canon de la messe. Et cela est parfois gênant, par exemple sur la prière « Sanctifie pleinement cette offrande », où le signe de croix avait nettement une fonction de désignation, c'est-à-dire que le corps et le sang de Jésus-Christ étaient clairement identifiés. Là, on ne sait pas. Est-ce que cette présence du corps et du sang est une présence spirituelle dans l'assemblée des fidèles, ou sous les apparences du pain et du vin? La disparition du signe de croix ne l'indique pas précisément. Il y a quand même quelques changements dans cette prière eucharistique. Tout d'abord, la disparition du mot « mysterium fidei » qui a été supprimé. C'est quand même assez étonnant pour une formule aussi sainte et aussi vénérable, commune à toutes les églises de toutes les époques, qui est donc clairement d'origine apostolique, voire vient de notre Seigneur, c'est étonnant qu'on supprime le mysterium fidei. Et puis, ce mysterium fidei est reporté après pour les acclamations. Il y a trois formules différentes d'acclamations qui ont lieu immédiatement après la consécration et l'élévation. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi, nous rappelons Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. Dans la troisième formule, on a « Viens Seigneur Jésus » ou « Nous attendons ta venue dans la gloire ». Il faut avouer que cette attente de la venue de notre Seigneur a quelque chose d'étonnant. Par la consécration, il est là, réellement, substantiellement présent, et on dit « Viens Seigneur Jésus ». Qu'est-ce que cela signifie? Pour les fidèles qui assistent à la messe, qui n'ont pas étudié la théologie, ils se diront « Mais est-ce que le Seigneur est là? Ou est-ce qu'il vient que maintenant? Quand est-ce qu'il arrive ?» Il y a là vraiment, cette invocation crée une ambiguïté grave. Ambiguïté qui est renforcée par les génuflexions. En rite traditionnel, le prêtre fait la génuflexion, élève l'hostie pour la montrer aux fidèles et génuflecte de nouveau. Dans le nouveau rite, il élève l'hostie ou le calice et fait la génuflexion. Alors, quand notre Seigneur Jésus-Christ est-il présent? Est-ce par les paroles de la consécration ou est-ce par la foi que les fidèles ont manifeste en adorant l'hostie ou le calice, ou le vin dans le calice, ou le corps du Christ? À quel moment a lieu la présence du Christ? Là encore, ce changement dans le rite crée une ambiguïté. On ne peut pas dire que cela nie une vérité de foi, mais cela crée donc une grande ambiguïté. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour ce rite. Mais il reste dans l'ensemble catholique, ce sont des prières catholiques et très vénérables. Surtout dans le texte latin, dans le texte français, il y a encore eu, évidemment, ces traductions assez libres. Voyons maintenant la prière eucharistique numéro 2. Elle commence par l'épiclèse dont nous parlions tout à l'heure. Donc on demande à Dieu de bénir pour que ses offrandes deviennent le corps et le sang. Suit le récit de l'institution par les paroles et les actions du Christ et représenter la dernière scène où le Christ Seigneur lui-même institua le sacrement de sa passion et de sa résurrection. Lorsqu'il donna à ses apôtres, sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang à manger et à boire, et leur laissa l'ordre de perpétuer ce mystère. Donc, il est clairement dit ici que c'est le récit de l'institution. Et on représente la dernière scène où le Christ lui-même a institué le sacrement de sa passion et de sa résurrection. Est-ce une réalité sacramentelle ou est-ce un théâtre sacré? Si nous voyons la forme de la consécration dans le nouveau rite, c'est la rubrique numéro 62, Dans les formules qui suivent, les paroles du Seigneur seront prononcées distinctement et clairement. Elles sont donc dites à haute voix, comme un récit. Et il n'y a aucune différence dans la manière de dire entre les paroles qui y introduisent, au moment d'être livrées, etc., et les paroles sacramentelles elles-mêmes. Tout est dit de la même manière. Alors de quoi s'agit-il ? S'agit-il réellement d'un acte sacramentel ou d'un théâtre sacré ? D'un simple mémorial. Là encore, la forme du rite est extrêmement ambiguë et correspond bien à la présentation générale du missel romain au numéro 55. Pour être honnête, je dois reconnaître que le numéro 55 a été modifié en 70 dans un sens plus catholique. Mais il n'empêche que lorsque ce rite a été institué, il a été fait avec cette explication. Et avec cela. Donc il est fondé sur cette conception théologique qui s'exprime dans la présentation générale du nouveau missel. La nouvelle formule n'est pas parfaite, mais elle est quand même mieux. On parle maintenant du récit de l'institution et de la consécration. Par les paroles et les actions du Christ, s'accomplit le sacrifice que le Christ lui-même institua à la dernière scène lorsqu'il offrit son corps et son sang sur les espèces du vin. Du pain et du vin, et les donna à manger et à boire aux apôtres. Donc, là, c'est quand même plus clair. Mais dans la première formule, c'est une ambiguïté folle. Notons encore ici que chaque formule de consécration a son introduction propre. Elle varie. Seules les paroles de la consécration sont conservées, heureusement. Mais tout le reste, on a la veille de sa passion, au moment d'être livré, la nuit même où il fut livré, quand l'heure fut venue. Donc vous voyez, on a une introduction différente à chaque fois. Maintenant, pour la prière eucharistique 3, pas grande différence, il y a une épiclèse, donc cette demande de bénédiction en vue de la consécration, qui est un peu plus longue, qui fait référence à plus d'éléments traditionnels. C'est tout. Pour les paroles de la consécration, c'est la même chose. Quant à la prière eucharistique 4, si vous le voyez, elle est très longue. Normalement, elle est réservée pour les messes qui n'ont pas de préface propre et pour les fidèles qui ont une bonne connaissance de la Bible. C'est ce qui est dit dans la présentation générale du missel. Oui, parce que on choisit à la carte selon l'assemblée. Il faut que le rite soit adapté à l'assemblée. Donc la première partie est en fait un très long récit de l'histoire du salut, qui se conclut finalement par l'épiclèse. Mais on n'y retrouve aucun des éléments qu'on avait dans le rite traditionnel. Et pour les paroles de la consécration, c'est encore un peu la même chose, on peut faire les mêmes remarques. Alors, que conclure de tout cela ? Je serai assez bref, il faudra voir la suite pour porter la conclusion définitive, mais la chose paraît déjà bien acquise, là, ce nouveau rite est clairement ambigu. Si l'on prend le canon 1, prière eucharistique 1, le canon romain, le texte est encore clair. Mais pour les autres, on ne sait plus quelle est la réalité qui se réalisera. Et on verra dans les prières suivantes. Est-ce le sacrifice du Christ ? Est-ce une simple mémoire ? Et un signe de cette ambiguïté, c'est que les protestants acceptent de dire la messe nouvelle avec ces prières eucharistiques. Pas la 1, mais avec la 2 ou la 3, il n'y a aucune difficulté. Et donc cette réforme s'est faite dans un sens protestant. On ne peut pas dire qu'il y a des hérésies, mais il y a en réalité des lacunes. Les choses ne sont pas dites. Pour prendre un exemple plus simple, si je vous parle de Jésus-Christ comme homme, que je prie que Jésus-Christ est homme, est-ce que c'est vrai cela ? Oui, c'est vrai, Jésus-Christ est homme. Mais si je ne dis que cela, je manque gravement à la vérité, car Jésus-Christ est homme et Dieu. Et ne dire seulement qu'il est homme, cela n'est pas juste. Et bien de même, dire de la messe qu'elle est un sacrifice eucharistique, une offrande des fidèles, cela est vrai. Mais ne pas dire que c'est le renouvellement du sacrifice de la croix, ne pas parler de la transsubstantiation, il y a là quelque chose de grave. Mais tout cela, donc nous le reverrons dans la conclusion, par la suite, quelles conséquences pratiques tirer de cela ? Voilà, je m'arrête, j'ai été très long. Je vous prie de m'excuser, mais je ne sais pas s'il y a des questions. Oui. Oui. Disons, pour la validité, il faut que ce soit du pain fermenté ou du pain azyme, non fermenté. Les Grecs actuellement utilisent du pain fermenté et ils n'ont pas le droit d'utiliser du pain azyme. Nous, latins, on a le droit de prendre du pain azyme mais on n'a pas le droit d'utiliser du pain fermenté, sauf cas d'extrême nécessité. Donc voilà. Mais si c'est du pain, c'est valide. Donc du pain, c'est-à-dire fait avec de la farine de blé et de l'eau, pas de la brioche. Oui. Saint Pie V a codifié la messe et a supprimé tous les rites qui avaient moins de 2 siècles à son époque. Donc le rite dominicain, le rite chartreux a subsisté, qui sont un peu différents. Et il a supprimé ces ajouts tardifs pour ramener un peu la messe à sa pureté primitive. Mais donc elle a été codifiée proprement dite par Saint Pie V. Mais on l'a vu, tous les éléments remontent bien au-delà. Donc c'est au XVIe siècle. Oui? Mais c'est prévu justement, c'est écrit dans le rite. Je ne sais plus exactement quel est le numéro, mais ça doit être ici, je crois, dans les 5. Préparation des dents. Puis on apporte les offrandes. C'est un usage à recommander que de faire présenter le pain et le vin par les fidèles. Le prêtre ou le diacre reçoit ses offrandes à l'endroit le plus favorable et elles sont disposées sur l'autel avec l'accompagnement des formules fixées. Bien que les fidèles n'apportent plus comme autrefois du pain et du vin de chez eux, ce rite de l'apport des dons garde sa valeur et sa signification spirituelle. On peut aussi recevoir de l'argent ou d'autres dons au profit des pauvres et de l'Église, etc. Donc c'est prévu. Disons, c'est un usage de l'Église primitif, mais qui, dans le cadre d'aujourd'hui, donne tout un autre sens. Et c'est ça qui est grave. Parce que ça n'est plus. Et surtout, ce qui est grave, c'est que dans le nouvel offertoire, il n'y a plus que cette offrande des hosties. Les fidèles qui apportent le pain, leur pain ou leur vin. Il n'y a plus la suite qui est l'offrande du sacrifice du Christ. Dans l'origine de l'Église, le sens était clair. On amenait le pain, c'était une première offrande, mais ce qui comptait, c'était l'offertoire lui-même, l'oblation elle-même. Donc, c'est pour ça. Il n'y avait pas le danger de cette ambiguïté.